Bonjour professeur Asfar, vous êtes PUPH au CHU d'Angers et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler des objectifs de pression artérielle dans le choc septique. Première question, pourquoi la pression artérielle moyenne comme objectif ?
Simplement parce que la pression artérielle moyenne est la pression de perfusion des organes, sauf en ce qui concerne la coronaire gauche. La pression de perfusion de la coronaire gauche est déterminée par la pression artérielle diastolique.
Deuxième question, quels objectifs et dans quelle population ?
Les recommandations stipulent qu'il faut maintenir une pression artérielle supérieure ou égale à 65 mm de mercure chez les patients en choc septique. Il faut savoir que pour les autres types d'état de choc, il n'y a pas de recommandation. Cette valeur de 65 mm de mercure doit être individualisée selon le terrain et les comorbidités du patient. Cependant, les validations de cette individualisation manque pour l'instant. Toute la problématique de la pression artérielle moyenne qui, comme je le disais, reflète la pression de perfusion des organes est de la maintenir à un niveau suffisant pour éviter une hypoperfusion pour un individu donné, mais de ne pas l'augmenter de façon excessive avec des vasoconstricteurs, ce qui peut à son tour entraîner une ischémie d'organes par vasoconstriction excessive. La valeur de 65 mm de mercure est issue d'études rétrospectives qui sont basées sur le même design. En général, les auteurs se sont attachés à enregistrer de façon continue la pression artérielle et ont observé le temps passé en dessous de différents seuils, 50, 55, 60, 65 mm de mercure, etc. Et le résultat de ces études montre que plus on passe du temps en dessous de la valeur seuil de 65 mm de mercure, plus la mortalité augmente. Par ailleurs, dans ces études, il semble se dégager un signal pour une valeur de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure pour améliorer la fonction rénale. Toute la problématique du niveau de pression artérielle est liée à la quantité de la perfusion de catécholamine. En effet, si on veut maintenir une pression artérielle à une valeur donnée, on est obligé d'utiliser le plus souvent de la noradrénaline et avec la toxicité propre de la noradrénaline. Les études rétrospectives, en particulier celle de Duncer, publiée dans Critical Care en 2009, a montré qu'il n'y avait pas de relation directe entre la mortalité et la pression artérielle moyenne, mais qu'il y avait une relation entre la quantité de catécholamine perfusée et la mortalité. Sauf que la pression artérielle moyenne dépend aussi de la vitesse de perfusion des catécholamines. Qu'en est-il des études prospectives ? Elles sont au nombre de 6, toutes basées sur le même design. Les auteurs ont pris des patients en choc septique stabilisés, remplis, équilibrés, bien réanimés. Et ils ont modifié la vitesse de perfusion de la noradrénaline pour augmenter la pression artérielle moyenne de 65 à 75, puis 85 mm de mercure. Et ils ont respecté des temps d'équilibration variables de 30 minutes à 4 heures, c'est-à-dire des temps d'équilibration courts. Ils ont analysé l'hémodynamique globale, pression artérielle, débit cardiaque, etc., la fonction rénale, et ils ont aussi regardé la microcirculation avec différents outils d'exploration tels que le laser Doppler ou le SDF ou la saturation transcutanée en oxygène. Globalement, il faut retenir que l'augmentation de la pression artérielle via une augmentation de la vitesse de perfusion de la noradrénaline s'accompagne d'une augmentation du débit cardiaque, n'a aucune incidence sur la fonction rénale et, en termes de microcirculation, des résultats très divergents d'une étude à l'autre ne permettant pas de conclure. Ces études n'apportent pas de réponse claire et non plus ne permettent pas de développer une stratégie d'escalade de la pression artérielle en augmentant la vitesse de perfusion de la noradrénaline
puisque les outcomes ne sont pas atteints. Une autre façon de regarder les choses, c'est de prendre des populations de patients en choc septique et de regarder leur atteinte rénale en fonction du niveau de pression artérielle.
Quand on reprend la littérature, par exemple l'étude de Rivers sur l'early Golgi therapy, Rivers avait une valeur de pression artérielle moyenne aux alentours de 75 mm de mercure à l'inclusion des patients dans son étude. Et à la sixième heure, les patients dans le groupe oligo-guided therapy avaient une valeur moyenne de 95 mm de mercure. Rivers n'a pas rapporté d'excès d'événements ischémiques dans son travail. Les autres études qui sont intéressantes pour essayer de cibler la bonne pression artérielle, ce sont les études qui ont comparé les catécholamines ou les vasopresseurs entre elles. La première est l'étude CATS, qui a comparé la noradrénaline associée à la dobutamine versus l'adrénaline, et à la 24e heure, la pression artérielle moyenne atteignait 80 mm de mercure. L'équipe d'ANA n'a pas rapporté d'événements ischémiques en surcroît. L'autre étude était l'étude VAST qui a comparé la noradrénaline à la vasopressine avec une attention toute particulière sur les événements ischémiques, que ce soit les événements ischémiques cardiaques, mésentériques ou cutanés. Et donc la pression artérielle moyenne atteinte à 24 heures était à 80 mm de mercure, il n'y avait pas de surcroît d'événements ischémiques. Enfin, la dernière étude SOAP qui a comparé la dopamine à la noradrénaline, pareil, de la même manière, 80 mm de mercure à la 24e heure, mais pas d'événements ou de surcroît d'événements indésirables de type ischémique. Enfin, la dernière étude est l'étude publiée par Lopez dans Critical Care Medicine en 2004, où les auteurs ont comparé le LNMA, qui est un inhibiteur de la NO-synthase versus la noradrénaline. Dans cette étude, l'inhibiteur de la NO-synthase a augmenté très fortement la pression artérielle moyenne. L'étude a été interrompue précocement pour une surmortalité dans le bras traité par le LNMA avec des événements ischémiques et une hypertension artérielle pulmonaire. Donc un excès de vasoconstriction semble être délétère et une valeur de 80-85 mm de mercure semble raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous avons conduit l'essai sepsis-PAM et on a comparé une valeur de pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure versus 80-85 chez des patients en choc septique. Les critères d'inclusion étaient très très larges, mais j'attire votre attention sur le fait que les patients devaient avoir une dose minimale de noradrénaline, ce qui ne correspond pas à la définition du choc septique. Il s'agissait d'un choc septique selon la conférence de consensus sepsis 2 et non pas sepsis 3, donc le lactate n'était pas comptabilisé. Et les patients devaient être inclus très précocement, et j'insiste, dans les 6 premières heures. 6 premières heures du début de la noradrénaline, bien sûr. La population des patients randomisés était stratifiée selon la présence ou non d'une hypertension artérielle chronique. Et les objectifs de pression artérielle, je le répète, étaient de 65-70 mm de mercure pour le bras bas et de 80-85 mm de mercure pour le bras haut, et ceci pour une durée maximale de 5 jours, afin de ne pas prolonger de façon indue la perfusion de noradrénaline dans le bras haut. Les catécholamines étaient quantifiées, le sevrage était protocolisé et le reste de la réanimation était assuré conformément aux recommandations de la SRLF et de l'ASFAR. Le critère de jugement principal était la mortalité à J28 et les critères de jugement secondaire des critères habituels avec des scores de défaillance, la mortalité à J90, la balance des fluides et les événements indésirables cardiaques, splanchniques et cutanés en termes d'ischémie. Et on a aussi regardé les troubles du rythme cardiaque. L'étude a montré principalement que lorsqu'on remplissait le protocole, la réanimation dans le bras bas se faisait entre 70 et 75 mm de mercure et non pas 65-70 mm de mercure comme était l'objectif initial. Cependant, il y avait une nette séparation entre les deux bras en termes de pression artérielle moyenne, sans chevauchement important. Et les patients qui étaient traités dans le bras de pression artérielle élevée recevaient plus de norépinéphrine et de façon plus prolongée. Cette différence était significative. En termes de remplissage, les volumes étaient identiques et la diurèse aussi pour la population, les deux groupes de patients. Le principal résultat est qu'il n'y avait aucune différence de mortalité à J28 entre les deux stratégies, y compris lorsqu'on regardait en fonction de la stratification, c'est-à-dire que le fait d'être hypertendu ou pas n'impactait pas les résultats et la mortalité était identique. En ce qui concerne la défaillance rénale, qu'elle soit jugée par le doublement de la créatinine ou le recours à l'épuration extrarénale, les résultats étaient identiques dans les deux bras. Cependant, en fonction de la stratification, les patients qui présentaient ou étaient porteurs d'une hypertension artérielle chronique et lorsqu'ils étaient réanimés avec une pression artérielle basse avaient de façon significative plus de défaillance rénale, 90 contre 65 patients, et pour l'épuration extrarénale, 73 versus 53. Les deux items étaient significativement différents en défaveur de la pression artérielle basse. En ce qui concerne maintenant les effets secondaires, en particulier les effets secondaires cardiaques, tout confondu, il y avait une différence qui était significative en défaveur de la stratégie de pression artérielle élevée. Ceci était sans doute lié à la quantité supérieure de catécholamine perfusée. Et l'item fibrillation auriculaire était lui aussi significativement différent et donc en défaveur de la stratégie pression artérielle élevée. En ce qui concerne les événements ischémiques, il n'y avait pas de différence entre les deux stratégies. La conclusion pragmatique de cet essai est que cibler une pression artérielle élevée entre 80 et 85 mm de mercure ne modifie pas la survie par rapport à une stratégie plus restrictive de 65 mm de mercure.
Cependant, cette stratégie a un coût. Elle augmente le risque d'arythmie de nouveau, d'arythmie auriculaire de nouveau.
Chez les patients présente une hypertension artérielle chronique, cibler une pression artérielle à 80-85 mm de mercure a permis de limiter l'incidence de la défaillance rénale et a réduit le recours à l'épuration extrarénale. Cependant, il s'agit d'une analyse de sous-groupe, quand bien même la stratification était à l'inclusion, et ces résultats devraient en toute rigueur être confirmés par un nouvel essai.
Merci professeur Aspar d'avoir accepté de répondre à nos questions.